Et si on ouvrait la parole de Dieu ? Juste avant d'ouvrir un premier texte, en introduction, il faudrait qu'on puisse observer le monde qui nous entoure, les gens qui nous entourent, et constater finalement chez eux une profonde incertitude. Incertitude concernant leur présent, pour d'autres incertitude concernant l'avenir. Ils sont là, ils ne sont plus rassurés, au contraire, ils sont plongés dans l'inquiétude, ils sont plongés dans l'insécurité, ils sont plongés pour certains dans l'angoisse. Mais toutes ces choses, ce n'est pas le cas des véritables chrétiens. Nous, chrétiens, nous avons des certitudes en Jésus-Christ. Et permettez-moi ce matin de nous rappeler que nous ne sommes pas dans le flou, nous ne sommes pas dans la confusion. Et même si notre cœur, alléluia, est déjà spirituellement dans les lieux célestes en Jésus-Christ, nos pieds sont pleinement sur terre. Nous avons des certitudes et nous avons déjà répondu à ces différentes questions existentielles. D'où on vient, où est-ce que l'on va et qui sommes-nous? Et surtout ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Et permettez-moi ce matin encore de rappeler ce que sont nos certitudes, aux quelques-unes, il y en a tellement. Des certitudes inébranlables. Et je précise, du vrai chrétien, parce qu'aujourd'hui tout le monde se dit chrétien, tout le monde se dit croyant, même sur le billet, vous le savez, américain, il écrit « We trust in God ». Nous croyons, nous mettons notre confiance en Dieu. Certitude du vrai chrétien. Peut-être 3 ou 4 que j'aimerais énumérer ce matin. Est-ce que vous voulez les découvrir ? Amen, j'ai entendu. La première certitude du véritable croyant, quelle est-elle ? Si ce n'est qu'il a l'assurance de son salut. Frères et sœurs, le véritable chrétien ne vit pas dans l'à peu près. Comme j'ai dit, il sait où il va, il sait d'où est-ce qu'il vient. Il sait qu'il était profondément dans le péché et il a été justement convaincu de péché, de justice et de jugement par le Saint-Esprit. Et il a compris qu'il devait faire cette étape de pouvoir se repentir et se convertir à Dieu. Le véritable chrétien, si on lui pose la question « est-ce qu'il est sauvé ?», il ne va pas répondre la réponse, vous la connaissez, normande. Cette fameuse phrase normande, « peut-être bien que oui, peut-être bien que non ». Il ne va pas non plus dire « je ne sais pas trop ». Dieu seul le sait. Ou encore cette autre réponse, on verra bien. Qui vivra, verra. Non. Le véritable chrétien, il sait qu'il est sauvé. Et si ce matin vous avez cette certitude que vous êtes sauvé, vous êtes heureux. Parce que comme on l'a entendu au travers d'un don spirituel, tout simplement parce que vous avez cru Dieu, vous avez cru en la parole de Dieu. Quelquefois on attend des sensations, des choses, mais ce sont des certitudes, des convictions que le Seigneur, par son Esprit Saint, place dans nos cœurs. Le véritable croyant est quelqu'un qui a réalisé qu'il est un pécheur potentiel devant Dieu. Et à cause de cela, et par conséquent, il s'est repenti de ses péchés. Il s'est converti à Dieu. Comme d'ailleurs la Bible le dit dans Actes chapitre 3, verset 19, voilà un premier verset que je vous propose. Si vous avez des stylos, prenez-le, chauffez-le déjà, parce que tellement je vous aime, il y a tellement de versets. Actes chapitre 3, verset 19, c'est la parole. Je relisais le livre d'Esdras et je voyais que quand ils ont redécouvert la parole, ils passaient même toute une matinée à lire la parole. Et tout le peuple, grand comme petit, était devant, était bouleversé par la parole. Je prie Dieu pour que la parole puisse nous bouleverser ce matin et que nous n'en soyons jamais habitués. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et le véritable chrétien, il a compris ce verset. Il a obéi, il a reconnu qu'il n'était pas totalement parfait et qu'il avait besoin plus que jamais de se repentir. Et il a demandé pardon au Seigneur Jésus. C'est tellement simple, mais tellement compliqué pour l'orgueilleux. Tellement compliqué pour celui qui veut encore raisonner et se justifier devant Dieu. La Bible dit que tous les hommes sont des pécheurs et que nous avons tous besoin de nous repentir et de nous convertir à Dieu. En tout cas, le véritable chrétien, il s'est repenti. Et c'est alors qu'il expérimente ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est quelque chose de glorieux qu'on ne peut pas trop expliquer avec notre intelligence. C'est quelque chose qui s'expérimente, qui se vit. La nouvelle naissance, le miraculeux vient au-dedans de nous. Le Seigneur lui-même, par son esprit, nous transforme et place au plus profond de nos cœurs des convictions profondes. Si vous me demandez à la sortie si je suis sauvé, attendez à ce que je vous dise avec un grand oui et les yeux écarquillés. Et ça sans aucune prétention. Parce qu'un jour, le Seigneur a croisé ma route. Il m'a changé, il m'a transformé, il a fait de moi une nouvelle créature. Et je sais que je suis son enfant. Au moment précis où nous donnons notre cœur au Seigneur, au moment précis où on invite Jésus-Christ dans notre vie, eh bien nous recevons au plus profond de nous cette certitude que nous sommes sauvés. Le Saint-Esprit atteste que nous faisons partie intégrante de la famille de Dieu. Qui a cette certitude ce matin? Levez la main. Vous pouvez la baisser. Qui ne l'a pas? La personne, hein? On n'ose pas trop. Dieu vous connaît et Dieu vous aime. Regardez ce passage que j'aime beaucoup, Romains chapitre 8, versets 15 et 16. On va le lire ensemble. Je vous laisse le temps de le chercher. Romains chapitre 8, les versets 15 et 16. Romains chapitre 8, versets 15 et 16. Le bruit de feuilles vient aider la clim à nous ventiler et nous faire du bien. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais au contraire, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba ». Et « Abba » veut dire « Père ». Et le verset 16 nous précise l'esprit, quel esprit? L'esprit de Dieu, bien sûr. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le chrétien né de nouveau a aussi la certitude qu'il possède aussi la vie éternelle. Là aussi, je veux vous donner un autre passage, 1 Jean chapitre 5, verset 13. Si l'Esprit de Dieu lui donne une pleine conviction qu'il fait partie intégrante de la famille de Dieu, mon nom est inscrit quelque part dans le livre de vie de mon Seigneur, on me connaît là-haut dans le ciel. Et vous pouvez en dire autant, c'est pour ça que je rejoins encore ce don spirituel qui nous a invités à pouvoir considérer, lever la tête et considérer l'héritage qui est notre partage. Afin, à bien que nous puissions ce matin être réjouis et chanter ce petit cœur qui dit « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé ». Amen, amen, on n'ira pas plus loin. 1 Jean chapitre 5, verset 13. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Et bien sûr, s'impose cette question que j'adresse à tout cet auditoire en face de moi. As-tu cette certitude, mon ami, mon frère, ma sœur? Es-tu dans le flou? Es-tu dans à peu près, l'à peu près? Le chrétien n'est pas dans l'à peu près, il est dans des convictions, dans des certitudes. Si tu n'as pas cette conviction ce matin, on l'a chanté, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour te tend les mains. Et il vient vers toi, et toi viens vers lui. Tourne-toi vers lui et reçois ce salut en te repentant, en te convertissant réellement de tout ton cœur à Dieu. Vous savez, quand on est sincère, quand on s'approche de Dieu, Dieu, lui, il est sincère. On ne peut pas le tromper. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Nul besoin de verser des larmes. Tu n'as pas besoin de verser des larmes. Sois juste vrai avec toi-même. Reconnais ton péché. Humilie-toi devant Dieu et Dieu t'accueillera. Et à l'inverse, si quelqu'un ici en ce lieu a cette conviction qu'il est sauvé, alors je voudrais bien aller avec, un peu plus loin avec toi sur d'autres certitudes qui découlent de cette première certitude. Quand on est bien assuré, quand on est sûr qu'on est sauvé, il y a d'autres certitudes, bien d'autres assurances qui sont là bien pour nous conforter, bien de savoir qu'on est plus que vainqueur en Jésus-Christ. L'autre certitude du vrai croyant, c'est de savoir que rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu. Vous savez bien que Dieu aime tous les hommes et qu'il veut d'ailleurs que tous les hommes soient sauvés. Il y a une réalité qui est sûre. Dieu a un amour spécial pour ses enfants. Ah, vous le savez, je vous aime tous. Je vous aime tous et c'est la réalité. C'est pour ça que je peux vous voir tous, vous regarder tous. Je vous aime tous. Ça, c'est le miracle de Dieu. Il nous permet d'aimer le prochain, quel qu'il soit, à plus forte raison, la grande famille de Dieu. Mais j'aime beaucoup Kaliana. J'aime beaucoup Johanna. Et la petite, même si elle crie, la petite Christelle. Elle crie beaucoup ces temps-ci. Mais vous ne pourrez jamais enlever cet amour que j'ai pour mes enfants. C'est pareil sur le plan spirituel. Dieu a un amour spécial pour ceux et celles qui sont partie intégrante de sa famille. La Bible nous dit que Dieu, tel un père, prend soin de ses enfants. Je mets au défi quiconque me dirait qu'il n'a pas été pris soin, au grand soin de la part de Dieu. Souvent, c'est notre aveuglement qui nous empêche de considérer toutes ces grâces, toutes ces bénédictions. Dieu prend soin de nous et il veille sur nous comme la prunelle de ses yeux, nous dit la parole de Dieu. C'est fort, ça. Qui peut mesurer l'amour de Dieu? Qui peut quantifier sa grandeur, sa profondeur, sa hauteur, sa largeur? Il nous faudra peut-être même toute l'éternité pour comprendre l'amour insondable de Dieu. Un amour profond, un amour qui s'exprime eh bien par même la bouche de l'apôtre Paul, qui avec une grande assurance va déclarer ce que j'aimerais que nous puissions lire ensemble, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, les versets 38 et 39. Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Mon frère, ma sœur, réécoute ces choses. Reçois-les au plus profond de ton cœur. Déclare-les, car c'est une certitude que Dieu te donne depuis le jour où tu t'es tourné vers lui. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de quoi ? De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Aucune entité, aucune puissance, aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors que je préparais ce passage, je reméditais encore sur ce passage de l'Ancien Testament, Ésaïe 43. Je vous ai déjà averti qu'on allait lire la Bible. Allez, faites claquer les feuilles, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 43, les versets 3 et 4. Ésaïe chapitre 43, versets 3 et 4. L'évangéliste de l'Ancien Testament. Un homme rempli du Saint-Esprit qui apporte des prophéties évangéliques et on est au cœur même de ces prophéties évangéliques. Et il va dire la chose suivante. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Je donne l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Et c'est l'histoire qui nous raconte que Dieu a fait en sorte que eh bien, même des nations entières, des peuples, puissent être écartés, éloignés du peuple de Dieu. Quand le peuple hébreu était retenu en captivité eh bien, en Égypte, Dieu eh bien, n'a pas hésité à pouvoir liquider toute une armée égyptienne au plus profond de la mer Rouge pour frayer un passage pour le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu aime. Quand on réalise également eh bien, ce que dit le prophète Ésaïe, c'est un contexte particulier. Le peuple d'Israël était en captivité cette fois-ci en Babylone. Et on voit encore l'amour de Dieu qui a suscité un homme eh bien, venant je ne sais d'où. L'homme, c'est Cyrus, qui précédant l'armée de Perse va terrasser eh bien, l'armée babylonienne. Et contre toute espérance, cet homme va décider eh bien, de rendre libre le peuple d'Israël qui était captif. Voyez-vous, Dieu veille sur son peuple pour toujours le rendre libre. Et l'histoire, c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qui raconte que effectivement, comme en récompense, Dieu a permis eh bien, que Cyrus et son armée perse, plus exactement son fils Cambyse, puissent venir et également conquérir l'Égypte, comme on l'a lu. Puisse conquérir également eh bien, l'Éthiopie et Saba. Comme la prophétie l'a annoncé. Ça, c'est la souveraineté de Dieu, qui est prêt à donner même des peuples, qui est prêt eh bien, à dégager le chemin eh bien, devant le peuple de Dieu, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Lorsqu'on nous touche, on touche à la prunelle des yeux de Dieu. Il met une garde autour de nous, des anges. Alléluia. Il a donné des peuples, il a donné des hommes, des femmes, mais mieux encore. Dieu a donné plus que des hommes. Il a donné plus que de l'Égypte en rançon. Il a donné son fils Jésus en rançon. Vous voyez là où va, jusqu'où va l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais au contraire ait la vie éternelle. Son amour pour nous, il est éternel, c'est le cas de le dire. Il est même intemporel. Son amour, il transcende le temps même. Quand on lit par exemple 1 Pierre chapitre 1, les versets 18 et 20, on va le lire, 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 20. Sachant que, Alors, j'entends encore des bruits de feuilles. Je vous laisse un petit peu le temps de le chercher. C'est trop beau. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Première épître de Pierre, chapitre 1, le verset 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, et c'est là qui nous intéresse, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Que nous dit ce passage ? C'est que Dieu, dans son amour insondable, son amour qui est intemporel, qui transcende le temps, avant même que nous soyons tous créés, avant même qu'il ait façonné la terre, Jésus savait déjà qu'il allait prendre ma place et votre place sur ce bon infâme. Voilà où va, jusqu'où va eh bien, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Hier, on partageait avec les jeunes et une a levé le doigt et a dit « Mais il y a quelque chose qui me dépasse, c'est de considérer l'éternité. » Elle posait la question, elle dit, mais dans le paradis, on va rester éternellement, éternellement comme ça avec Dieu. Et pour enfoncer le clou, j'ai dit, mais on a du mal déjà à comprendre l'éternité. On se projette dans l'avenir. C'est peut-être plus facile que de se projeter eh bien, dans le passé. Et plus on remonte le passé, eh bien, Dieu était de toute éternité. Et de toute éternité, Jésus était déjà choisi comme, alléluia, victime propitiatoire pour nous. Celui-là qui allait prendre ma place, votre place, sur le bois infâme. L'amour de Dieu à notre égard est tel que eh bien, nous avons été doublement pris en main. Ça mérite des explications. On n'a pas été simplement pris en main, on a été doublement pris en main. Pourquoi je dis ça ? Juste par un verset, même deux. Jean chapitre 10, versets 28 et 29. Ne le cherchez pas, peut-être qu'il sera affiché derrière mon dos. Jean chapitre 10, versets 28 et 29. « Je leur donne la vie éternelle, dit Jésus, et elles ne périront jamais. » Parlant bien sûr de ses brebis. « Et personne ne les ravira de ma main. » De quelle main il est fait mention ? Celle de Jésus. Mais regardons le verset suivant, le verset 29. « Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Attends Joël, elle est dans la main de Jésus ou dans la main du Père ? Est-ce qu'elle est dans la main de Dieu le Fils ou Dieu le Père ? Des deux, parce que les deux forment un. Il n'y a qu'un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, mais qui se révèle en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous sommes doublement dans cette main protectrice de Dieu le Père et Dieu, alléluia, le Fils. Et j'ai même, on peut le dire, eh bien, Dieu le Saint-Esprit, que Dieu soit béni. Et rien ne peut nous ravir de la main du Dieu trinitaire. À part qui ? Le diable ? Non. À part les difficultés ? Non. À part les épreuves ? Non. À part nous-mêmes. Et l'amour de Dieu est tel que, vous savez, Dieu ne forcera pas. Il s'est déjà présenté. Il a dit, le voleur, lui, il vient, il force. Il passe par la fenêtre. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté le vol. On est frustré quand on rentre dans une maison qui a été mise dessous. C'est un voleur qui est passé par là. Mais Jésus s'est présenté non pas comme un voleur, mais comme celui qui veut nous donner en abondance, qui veut nous bénir. Et il a dit de quelle manière il s'y prend. Il frappe à la porte de notre cœur, et il frappe. Et il a dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, le Seigneur ne forcera pas la porte. Il ne nous forcera pas à rester dans le creux de sa main. Il nous a aimés, il a tout fait pour que nous soyons sauvés, mais c'est à nous de rester dans le creux de la main du Seigneur. Et tant que nous resterons dans le creux de la main du Seigneur, rien, alléluia, ne pourra nous arriver, que Dieu soit béni. Voilà une autre certitude. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Sois plus dans l'inquiétude. Rien ne peut te séparer. Cet amour si fort. Il n'y a rien de plus fort que l'amour. La Bible nous dit que même les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, le feu de l'amour. Et un feu de toute éternité eh bien, s'allumait dans le cœur de Dieu notre Père pour chacun d'entre nous. Une autre certitude, est-ce que vous voulez la découvrir ? En tant qu'enfant de Dieu, rien au grand jamais, rien ne peut nous nuire. Luc chapitre 10 et le verset 19 nous le confirment. C'est Jésus qui dit à ses disciples, Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi es-tu dans l'inquiétude ce matin? Pourquoi es-tu dans l'inquiétude? Tu t'inquiètes parce que des hommes t'ont menacé? Tu t'inquiètes parce que la semaine dernière était quelque peu agitée et tu en as été ballotté? Mais pourquoi tu t'inquiètes? Rien ne pourra vous nuire. Sommes-nous convaincus de cette vérité, frères et sœurs? Jésus-Christ nous a revêtis de son propre pouvoir, de son autorité. Ce pouvoir nous permet de dominer sur la puissance des ténèbres. Quand il dit « vous pourrez marcher sur les serpents et les scorpions », vous avez compris que c'est pas, il ne fait pas mention là des animaux, il faut laisser les animaux tranquilles. Mais comprendre, c'est sur le plan spirituel, des situations qui peuvent être un bien là comme des serpents qui nous lovent et qui essayent de nous serrer de ces étreintes. Des scorpions qui subtilement voudraient nous piquer, des situations épineuses, difficiles. C'est sur le plan spirituel, vous l'avez compris, qu'il faut comprendre ce verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et même sur les scorpions. L'ennemi a un seul objectif, on le sait très bien, c'est de pouvoir nous liquider. Il ne s'attarde pas parmi les inconvertis, puisqu'il les appartient déjà. Il s'attarde sur le peuple de Dieu. C'est pour ça que quelquefois, il y a tellement de souffrance, tellement d'opposition. On ne comprend pas, hein. On veut se mettre à prier. On veut se mettre même là, quelquefois, des oppositions. C'est l'ennemi, quelquefois, qui lance ses flèches. Quand on est dans la tourmente, quelquefois, les tempêtes sont créées par l'ennemi de nos âmes. Il souffle sur nous, mais nous n'avons rien à craindre. Il ne peut rien nous arriver tant que nous restons sous la protection du Tout-Puissant. Un passage que j'aime beaucoup dans Apocalypse, chapitre 12 et le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? Du sang de l'agneau. Quand nous avons le sang précieux de Jésus sur nos vies, et là aussi c'est sur le plan spirituel qu'il faut le comprendre, eh bien, nous n'avons plus à être inquiétés par les accusations de l'ennemi. Vous savez qu'il s'appelle l'accusateur. Celui qui accuse, c'est le diable. Et si vous êtes constamment accusé, si vous êtes repris par rapport à votre passé, croyez-moi, l'ennemi n'est pas loin. Mais vous êtes en mesure de dire, le sang de Jésus-Christ a purifié et lavé mon cœur. Je suis libre, il m'a affranchi. Frères et sœurs, c'est une réalité. Ils l'ont vaincu de quelle manière? À cause du sang de l'agneau. Il faut comprendre la valeur et l'efficacité du sang de Jésus qui a été assez efficace pour terrasser l'ennemi. Mais ils l'ont vaincu également par la parole de leur témoignage. Ouvrons notre bouche. La parole, elle est créatrice. On voit au commencement, Dieu créa le ciel, la terre, et puis il a commencé à parler. Et ce n'est pas pour rien qu'il nous ait dit que nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. L'homme, la Bible nous dit, et c'est le livre des Proverbes qui le dit, la mort et la vie au pouvoir même de la langue. La puissance de la langue. Il y a des gens, ils savent l'efficacité de la langue, le fait de prononcer des paroles, et ils en abusent. Et nous, chrétiens, sous le plan spirituel, on a besoin de déclarer les choses et rappeler la toute-puissance de notre Dieu. Et peut-être dire à l'ennemi, arrière de moi, Satan. Est-ce que vous le dites? Quand c'est nécessaire. Il y en a qui voient Satan partout. Mais il ne s'agit pas de voir Satan partout. Mais quand il est là, eh bien, tout comme Jésus, puisqu'il nous a donné l'exemple, lui dire, arrière de moi, Satan, parce qu'il est écrit. Et c'est ça la parole du témoignage. Témoignage de la parole qui sort de notre bouche. On professe, on déclare qui est Jésus. Il y a une chrétienne qui... bien sûr, je précise, d'une autre église qui un jour est venue me voir, elle était tracassée, elle était très inquiète. Elle me disait, elle m'a expliqué, elle m'a avoué qu'avant de connaître le Seigneur, elle allait souvent voir les voyants. Et ces voyants, entre autres, lui demandaient certaines photos pour travailler dessus. Et maintenant qu'elle était convertie, elle était embêtée, elle n'a pas pu récupérer ses photos. Elle était venue me voir pour me demander qu'est-ce qu'il y avait lieu de faire. Et la réponse a été la suivante. J'ai dit, mais restez en paix. Vous n'avez absolument rien à faire, si ce n'est de placer votre confiance en Dieu. Parce que la Bible est claire, elle dit « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. » Il est dit aussi, et là on peut le lire, Ésaïe chapitre 54, verset 17. Ésaïe 54, verset 17. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Frères et sœurs, quand l'homme parle, on peut peut-être réfléchir un petit peu. Mais là, il n'y a pas à réfléchir. Quand Dieu parle, c'est la vérité, point barre. Et il nous assure qu'il ne peut rien nous arriver. Et si même Dieu permettait que les flèches même de l'ennemi puissent nous atteindre, c'est toujours eh bien, pour que par la suite, toute chose concourt à notre bien et que nous puissions grandir dans un domaine de notre vie spirituelle. Quand on a compris ça, frères et sœurs, on a compris que l'ennemi, même s'il vient en rage, eh bien, on comprend que le Seigneur, il veut nous bénir. Il veut nous encore nous montrer sa gloire et sa toute puissance. Regardez ce qu'a dit David, le grand roi David, dans Psaume chapitre 27. Permettez-moi de le lire. Psaume chapitre 27. Oh Dieu est bon. Psaume chapitre 27. Qui connaît le psaume 27 ? Du verset 1 jusqu'au verset 6. Allez, on va pousser la lecture. C'est un psaume de David. Cet homme, il est, j'ai envie de dire, une énigme par rapport à le peu de connaissances qu'il avait, par rapport à nous qui avons la Bible complète. Quelle proximité avec Dieu ! Quelle révélation de cœur il avait néanmoins ! Et c'est lui qui nous enseigne ce matin. Psaume chapitre 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? C'est la maladie qui te fait peur? C'est l'épreuve qui te fait peur? C'est les agitations de l'ennemi qui te fait peur? Ce sont ses rugissements? Lui, le lion de la tribu, le lion qui rugit. Mais sachez qu'il y a en face de lui le lion de la tribu de Juda, qui combat pour nous, comme on l'a entendu au travers d'un don spirituel. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Et croyez-moi, David n'était pas un Marseillais. Et il n'exagérait pas. Il était confiant, il avait des certitudes que rien ne pouvait l'atteindre tant que Dieu est à ses côtés. Et son seul souci, et c'est le suivant, c'est au verset 4, que le chapitre n'est pas terminé. Il nous révèle le secret. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Il veut une seule chose. Le seul souci, ce n'est pas l'armée qui vient vers lui. Ce n'est pas la guerre que l'ennemi lui a déclarée. Son seul souci, c'est demeurer chaque jour dans la maison de l'Éternel. C'est une image pour nous parler du souci de David. C'était toujours chercher à être dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, tant que vous êtes dans la présence de Dieu, rien ne peut vous nuire. L'ennemi, il vous fuit. La présence de Dieu, c'est la lumière. Et là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent rester. Si j'éteins la lumière là au fond, les ténèbres reviennent et dominent. Mais dès que je remets la lumière, les ténèbres s'enfuient. Une belle image. Sur le plan spirituel, c'est pareil. Si je demeure dans la maison de Dieu, on comprend pourquoi la mamie Anne, fille de Phanuel, voulait constamment servir Dieu, matin, midi, soir, dans la maison de Dieu. Elle ne quittait point le temple, nous dit l'évangile selon Saint Luc. Elle a compris quel est le secret. Demeurer dans la présence de Dieu. Vous avez compris que ce n'est pas le bâtiment. Et là aussi, sur le plan spirituel, c'est demeurer. Et je peux demeurer bien dans la maison de Dieu tout en travaillant. Je peux demeurer dans la maison de Dieu tout en vivant bien ma semaine. Je demande à l'Éternel une chose que je désire. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Il dit au verset 5, et il donne l'explication. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. C'est pas beau ça? Il donne l'explication. Il me protégera. Si je reste dans la présence de Dieu, je serai protégé, je serai gardé et rien ne pourra nous nuire. Déclarons si ces choses en face de l'ennemi, ouvrons notre bouche et déclarons que nous appartenons au Seigneur et que rien ne peut nous nuire parce que Jésus est avec nous, parce que Dieu est avec nous. Amen. C'est David qui dit encore, mes ennemis reculent au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi. C'est beau ça, ce passage. Mes ennemis reculent au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi. S'il y en a qui veulent la référence, psaume chapitre 56, verset 10. Et Moïse va dire aussi également, Deutéronome chapitre 33, verset 29, parlant du peuple d'Israël, alors qu'il a fini de bénir chacune des tribus d'Israël, il va conclure ses bénédictions en disant la chose suivante, « Que tu es heureux, Israël !» Et j'ai envie de rajouter ce matin, « Que vous êtes heureux, peuple de Dieu, peuple d'Istre, que tu es heureux, que tu es heureux. Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire? Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leur lieu élevé. Amen, amen. Une autre certitude, rien ne peut nous nuire. Et puis je voudrais terminer avec une quatrième et peut-être dernière certitude. Une certitude qui nous projette en avant. Une certitude qui nous rappelle que Jésus est à la porte et qu'il revient bientôt. Cette certitude, c'est que nous verrons face à face le Seigneur. Celui qu'on ne voit pas, eh bien, visiblement, puisque eh bien, le Seigneur nous demande de marcher par la foi, un jour nos yeux le verront. Je contemplerai mon Seigneur. Et vous avec moi? Et il faut qu'on soit prêt pour ce saint rendez-vous. Les choses s'accélèrent, je le dis. Tout nous montre dans les choses de ce bas monde que Jésus est à la porte et qu'il revient bientôt. Et notre souci doit être le fait d'être prêt, avoir cette certitude que Jésus-Christ, alléluia, nous sera favorable lorsqu'il reviendra sur les nuées. La première venue du Seigneur lui donnera à s'arrêter sur les nuées. Et la Bible nous dit que miraculeusement, en un clin d'œil, eh bien nous décollerons et nous irons à sa rencontre. Quelle espérance merveilleuse! Une espérance qui est ancrée au plus profond de nos cœurs. Et Job, qui n'avait pas toute la révélation du retour de Christ et autres, avait quand même au plus profond de son cœur, alors qu'il vivait l'épreuve, cette certitude que ses yeux verraient son Dieu. Il ne comprenait pas tout ce qu'il vivait, mais une certitude que rien ni personne ne pouvait ôter dans son cœur l'animait. Et il va dire, Job chapitre 19, versets 25 à 27, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Et il le répète, je le verrai. Il ne prend pas la méthode Coué là. Ce n'est pas la méthode Coué qu'il prend. Mais parce qu'il a des certitudes dans le cœur, il le dit. Frères et sœurs, si nous croyons la parole de Dieu, nous la proclamons. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Il dit, j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Si ta bouche est ouverte, si tu proclames ton Dieu, si tu déclares les choses comme le déclare Job ici, c'est preuve que tu as des certitudes dans le cœur. C'est preuve eh bien, que tu as la foi. Verset 27, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Quelle conviction, quelle certitude profonde. Et ici, si je perdais ma chair, et il faut comprendre le contexte dans lequel il se trouvait, il était atteint d'un ulcère qui le tenait de la tête jusqu'aux pieds, et il se grattait avec un tesson de bouteille, en tout cas de poterie. Mais il va dire, si même eh bien, je venais à décomposer, à mourir, c'est pour voir mon Dieu, c'est pour le contempler. Et là, fini les pleurs, fini les larmes. Si ces choses te laissent indifférente ce matin, peut-être comme on a entendu ce don spirituel, peut-être quelque chose a été éteint. Ce que j'ai contre toi, c'est peut-être que tu as abandonné ton premier amour. Et avec cet abandon de ce premier amour, tu as peut-être aussi abandonné toutes les certitudes que moi-même j'ai déposées dans ton cœur, dit ton Dieu ce matin. Enfin, nous venons de voir tellement de certitudes. Certitude d'être sauvé, certitude que rien ne peut nous nuire, certitude que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Puis enfin, certitude eh bien, que nos yeux verront le Seigneur, parce que nous aimerons et nous aimons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La question, elle reste encore demeure. Possédez-vous toutes ces certitudes? Et si ce n'est pas le cas, aujourd'hui même, Dieu est capable de vous les accorder, ou même peut-être même de les réanimer dans votre cœur. Et si vous, chrétiens, vous avez ces certitudes dans votre cœur, il s'agit pour vous, tout comme moi d'ailleurs, de pouvoir les garder, parce que le voleur fera tout eh bien, pour ôter ses certitudes dans nos cœurs. Juste un dernier passage, eh bien, et après nous allons prier, Hébreux chapitre 10, qui ne connaît pas ce passage, Hébreux chapitre 10 et le verset 39, Hébreux chapitre 10, du verset, même on va lire un peu plus, 35 à 39, excusez-moi, Hébreux chapitre 10, verset 35 à 39, l'auteur du livre d'Hébreux exhorte le peuple de Dieu par ses paroles. N'abandonnez donc pas votre assurance, vos certitudes, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui manque à ton salut? Qu'est-ce qui manque à l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ? Père céleste, aide-nous, Seigneur, à persévérer jusqu'au bout avec toi. Aide-nous à considérer, c'est vrai, ces bénédictions, ces certitudes que tu as mises dans nos cœurs pour que nous n'ayons plus, Seigneur, rien à craindre, mais qu'au contraire, nous puissions relever la tête et marcher en vainqueur. Parce qu'à la croix, tu as déjà pourvu, Seigneur mon Dieu, pour que nous puissions non seulement être réconciliés avec Dieu le Père, mais que nous puissions marcher de victoire en victoire. Seigneur, pardon quand ces certitudes se sont laissées enfouies par les difficultés de la vie, les épreuves, peut-être même les attaques de l'ennemi. Mais je te prie de revigorer les cœurs ce matin. Tu connais, Seigneur Père éternel, celui ou celle qui est venue abattu ce matin et qui n'a même pas eu, Seigneur, ce courage pour pouvoir chanter. Seigneur, je te prie de ranimer, Seigneur Père mon Dieu, la foi dans son cœur, de le fortifier par ce qui a été partagé. Par le Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, viens toucher les cœurs. Et je te prie aussi, Seigneur, pour ceux et celles qui n'ont pas l'assurance de leur salut, ceux et celles qui, Seigneur, peut-être pourraient fréquenter, Seigneur, des lieux de culte, mais jamais, Seigneur Père, t'ont laissé entrer dans leur cœur. Donne-leur, Seigneur, à se tourner vers toi. Donne-leur à se donner vers toi. Seigneur, il n'y a rien de plus beau, Seigneur Père, que de se tourner vers toi. Car lorsqu'on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Mon Dieu, bénis nos cœurs, bénis ton peuple ce matin. Donne-nous aller de l'avant, Père, pour la gloire de ton nom. Amen et Amen.